Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça y est, c'est enfin l'heure du départ pour les 138 skippers de la route du Rhum, 3 jours après la date prévue. Ils prendront le large dans un peu plus de 2h maintenant, direction la Guadeloupe, et ce sera à vivre dans RTL Midi. Dans cette édition également, on reviendra longuement sur ces élections aux États-Unis, les midterms, élections de mi-mandat, une revanche entre Trump et Biden, mais vous verrez que l'actuel président américain n'est pas si affaibli, c'est mieux comme ça, qu'on aurait pu le penser. À suivre également l'affaire Berry au tribunal, l'État qui propose un accord financier à la famille d'Ivan Colonna après la mort de l'indépendantiste en prison, Emmanuel Macron qui présente la stratégie militaire française, mais d'ailleurs, notre armée est-elle si puissante qu'on le croit? A-t-elle des moyens suffisants? On en parlera à 12h40 avec le général Dominique Trinquant, et puis on parlera évidemment de la liste des Bleus. Didier Deschamps annoncera ce soir les joueurs convoqués pour aller disputer le Mondial au Qatar.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour Salon de Provence où l'on a décidé de fermer les serres municipales pour faire des économies d'énergie. À midi 20, RTL Midi, votre vie. Aujourd'hui, on va vous parler cyberharcèlement avec un homme très présent sur les réseaux sociaux. C'est Jerem Star, l'intervieweur, humoriste, spécialiste de la télé-réalité, viendra nous raconter un calvaire qui, lui, n'a rien de virtuel. Juste avant 13h, LVT Midi, les sorties ciné de la semaine et le phénomène Marvel, Black Panther. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la grève demain à la RATP pour les salaires et les retraites. Comprenez-vous le mouvement? On rappelle que 7 lignes de métro seront fermées demain à Paris.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, mort le 9 novembre 1970.
La météo avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Avec un après-midi gris dans le sud. Hein.
Oui, du sud-ouest aux frontières de l'est. C'est non seulement c'est gris, mais en plus c'est bien pluvieux. Je vous en dis plus tout à l'heure.
Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Avec 3 jours de retard, ils vont enfin pouvoir prendre le large. Les 138 skippers de la route du Rhum s'apprêtent à quitter Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. Une traversée de l'Atlantique qui ne devrait durer que 6 jours pour les plus rapides, Frédéric Veil. Le coup de canon est attendu à 14h15.
Exactement, Céline, avec des skippers qui ont désormais tous rejoint leur bateau après les au revoir matinaux des pontons, moment toujours très fort émotionnellement pour Thomas Coville qui a longuement enlacé ses proches.
Ouais, bon, c'est le jeu de passer du mode terrien au mode volant. Tout vous agrippe et tout vous retient, c'est indescriptible. Mais c'est vrai que ce moment d'arrachement pour devenir un marin est toujours très fort. Tu passes d'un état à un autre.
Voilà, place maintenant à l'attente, au dernier préparatif à bord, puisque le départ est toujours un moment important et délicat, avec 138 voiliers, vous l'avez dit, sur la ligne de départ. Mais vous allez l'entendre, ça n'inquiète pas plus que ça. Charles Caudrelier, c'est le grand favori de cette 12e édition.
La seule truc, la pression que j'ai, finalement, c'est le résultat. Et j'essaie de pas trop y penser, parce que la course est longue. L'idée, c'est ça, un départ serein. Je cherche pas à faire le meilleur départ du monde, mais je veux pas abîmer mon bateau. Et après, la route est tellement longue, il y a tellement de choses à faire que voilà. Mais ça va être une belle route du Rhum, croyez-moi.
Ouais, une belle route du Rhum avec un superbe duo pour l'instant. Soleil, ciel bleu sur Saint-Malo. Il fait un temps magnifique. Les organisateurs ont bien fait de décaler de 3 jours.
Merci Frédéric Veil à Saint-Malo. Donc pour RTL, vous nous ferez vivre ce départ tout à l'heure à 14h15.
Frédéric, je vois que la première traversée, c'était 23 jours et on est à 6 jours aujourd'hui.
Ben pour l'instant, le record, c'est 7 jours, 14 heures. C'est Francis Joyon qui a établi ce record il y a 4 ans. Mais oui, on part sur des routages qui donnent moins de 7 jours, donc 6,
c'est
voire
incroyable,
peut-être même 5 jours.
Il y a 45 ans, c'était 23 jours, Mike Birch.
Mais aujourd'hui, ce sont des bateaux volants, c'est pour ça.
RTL Midi.
L'affaire Richard Berry au tribunal. Aujourd'hui, Colline, la fille de l'acteur qui l'avait accusée d'inceste, est jugée en appel pour diffamation.
Et cela après la plainte de son ex-belle-mère, Jane Manson. Frédéric Perruche, vous êtes au tribunal de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Tous les protagonistes sont présents, sauf la fille de l'acteur, Colline Berry.
Exactement, Colline Berry, l'absente du jour pour des raisons de santé, santé psychologique fragile et surtout pour ne pas croiser à l'audience Pascal Louange, l'actuelle épouse de son père Richard Berry, qui l'avait giflé lors du premier procès houleux en avril dernier à Aurillac. Elle est donc rejugée en son absence pour diffamation, pour avoir dénoncé dans les colonnes du Monde en février 2021 les violences sexuelles de son père, les jeux sexuels qu'il lui aurait fait subir à de multiples reprises dans les années 80 quand elle n'avait pas 10 ans, avec la complicité de Jean Monson, chanteuse très populaire à l'époque et ancienne compagne de Richard Berry. C'est elle d'ailleurs et elle seule qui est plaignante aujourd'hui pour laver son honneur après avoir obtenu gain de cause en première instance, 27 000 euros de dédommagement divers au total. Très élégante, en veste bleu clair et robe noire, elle viendra témoigner cet après-midi, tout comme Richard Berry, soutenue par son autre fille, Joséphine, comédienne elle aussi, et sa sœur, Marie.
Frédéric Perruche, merci. 240 000 euros ont été proposés à la famille d'Yvan Colonna par l'État français qui reconnaît donc avoir une part de responsabilité dans la mort de l'indépendantiste corse. Yvan Colonna tué par un co-détenu dans sa prison d'Arles en mars dernier. Un accord financier pour éteindre une procédure devant la justice administrative mais pas au pénal. On y revient en détail dans le journal de 12h30.
Emmanuel Macron, chef des armées aujourd'hui dans la rade de Toulon.
Oui, le chef de l'État doit être élitreillé à bord d'un sous-marin d'attaque nucléaire de nouvelle génération. Et il prononcera ensuite, dans moins d'une heure normalement, un discours sur la stratégie militaire française. Discours qui s'annonce offensif, Julien Fautra, notamment contre la Chine.
Oui, pointer du doigt, nommer et désigner la Chine comme le pays qui déstabilise l'ordre mondial et qui le déstabilisera dans les prochaines années. La revue nationale stratégique a vocation à dire ce que seront les conflits de demain. On pensait que la Russie serait le pire, le seul ennemi. Le retour de la guerre en Europe, c'est bien la pierre angulaire de ce document. Mais plusieurs paragraphes sont directement consacrés à la Chine dans ce document que j'ai pu consulter avant le discours du chef de l'État. On parle de cybersécurité, de renforcement de l'arsenal militaire, d'atteinte à nos intérêts. Comme un message très politique aussi au chancelier allemand Olaf Scholz, qui est allé en Chine sans la France, qui a vendu une partie du port de Hambourg à un groupe chinois. L'Élysée va rappeler le risque d'intrusion chinoise dans nos économies.
Julien Fautra, Toulon pour RTL. Dans ce contexte, la France reste-t-elle une grande puissance militaire? Nos armées ont-elles suffisamment de moyens? Nous serons avec le général Dominique Trinquant pour en parler à 12h40.
Journée noire attendue demain dans les transports franciliens. 7 lignes de métro seront fermées à Paris.
Oui, pas de rame sur les lignes 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Des perturbations attendues aussi sur les autres lignes, dans les bus, sur les RER A et B. Tout ça en raison de la grève à la RATP pour les salaires et les retraites. La CGT est certes la seule à appeler à la mobilisation au niveau national, mais il pourrait y avoir malgré tout des perturbations dans plusieurs services publics. Enquête préliminaire ouverte sur la gestion du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Des perquisitions sont d'ailleurs en cours. Le parquet national financier s'intéresse notamment à des notes de frais de taxi VTC présentées par l'ex-directeur général Claude Haché, qui a été révoqué le mois dernier alors que celui-ci disposait déjà d'un véhicule de fonction. Mais le sport, c'est aussi la liste tant attendue de Didier Deschamps, le sélectionneur, qui doit annoncer ce soir dans le 20h de TF1 le nom des joueurs retenus pour disputer le mondial au Qatar, mondial qui débute dans 11 jours maintenant. Et en croire notre sondage Odoxa pour RTL, vous encouragez en tout cas, Didier Deschamps a appelé Olivier Giroud. 88% des amateurs de foot espèrent ainsi la sélection de l'attaquant. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche. Vaut mieux être au nord aujourd'hui.
Ah, exactement, Céline, parce que quand on est au sud, surtout entre le sud-ouest et les frontières de l'est, là, c'est un temps bien gris, agité, avec des pluies continues, des pluies même bien soutenues entre le Gard et l'Ardèche, avec parfois des orages. Dans le sud-est, cet après-midi, vers la région PACA, on attend des averses orageuses également, de la neige, mais uniquement en haute montagne. Et puis, à l'arrière, sur un large quart nord-ouest, entre la Bretagne, le Poitou, l'Île-de-France, en allant vers les Ardennes. Là, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, quelques gouttes encore, mais alors il n'y a plus grand-chose. Hein. Les éclaircies vont prendre le relais cet après-midi et avec des températures qui restent douces hein, pour la saison. Je rappelle que à cette période de l'année, la moyenne, en gros, au nord, c'est 11-12 degrés et au sud, 15 degrés. Là, cet après-midi, on aura 13 à Langres, 14 à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 17 à Toulouse, 19 à Nice, 21 à Montpellier et même jusqu'à 23 degrés à Perpignan.
Merci.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chez vous, de Brest à Strasbourg, de Lille à Marseille, chaque jour l'info au plus près de vous.
Et aujourd'hui à Salon de Provence avec Étienne Baudu. Bonjour Étienne.
Bonjour Céline et Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Face à la flambée des prix de l'énergie, les communes aussi cherchent à faire des économies. Et à Salon de Provence, Étienne, on a donc décidé de fermer les serres municipales.
Oui, les serres qui étaient d'ailleurs une des fiertés de la commune en fonction depuis les années 70. Ce sont dans ces serres que toutes les plantes de la ville étaient bichonnées, que les semis étaient préparés. Mais ce sont des serres qui étaient chauffées au fioul et la mort dans l'âme. Le maire de Salon, Nicolas Isnard, a donc pris la décision de les fermer.
La serre chaude nous permettait notamment d'avoir des plantes exotiques que nous affichions et nous exhibions volontiers pour des festivités que nous faisions découvrir à nos écoles. Mais aujourd'hui, il faut être raisonnable. Donc nous avons fermé ces serres et nous allons là aussi gagner une cinquantaine de milliers d'euros.
Car il faut savoir que la facture énergétique de la commune a explosé en un an. Elle est passée de 2 à 5 millions d'euros. Alors dans ces serres, des agents étaient aux petits soins de toutes ces plantes. Ils vont devoir eux aussi s'adapter. Philippe est le chef de culture responsable de la production.
Dans la ville, les administrés étaient habitués d'avoir un fleurissement quand même qui était riche, des couleurs riches. Là, on ne va plus avoir ça. Donc on va faire des endroits un peu stratégiques et tout le reste, on va passer en plantes pérennes, ce qu'on appelle vivaces et arbustifs, voilà, qui vont rester toute l'année, donc pas avec le même entretien, pas de problème de chauffage, etc. S'orienter sur des plantes d'ici, le style du lantana, c'est ce qui nous permet d'avoir des beaux fleurissements.
Et pourtant, Étienne, il y avait des petits trésors dans ces serres chaudes.
Oui, des trésors en particulier dans cette serre des plantes exotiques, la plus énergivore et qui est en train d'être vidée. Des plantes que Philippe soigne pour certaines depuis, imaginez, depuis plus de 30 ans et qui étaient exposées dans des manifestations organisées par la ville.
On trouve les strelitzia, donc ce qu'on appelle l'arbre du voyageur, les oiseaux du paradis. On retrouve les crassula. Alors là, on se retrouve avec des plantes qui sont plutôt de milieu sec, mais qui demandent de la chaleur. Voilà, ce sont des plantes exceptionnelles.
Étienne, pas question de les condamner, hein, ces plantes exceptionnelles. Elles vont donc être vendues au profit d'associations.
Oui, ce sera donc samedi de 10h à 17h aux serres municipales de Salon de Provence, directement au profit de 6 associations caritatives, dont le grenier d'Ozanam que représente Véronique Barillet.
Donner une seconde chance à ces plantes qui ont été chouchoutées. On sent que l'équipe municipale qui s'occupe de la serre, ça leur fend le cœur de voir partir ces plantes, mais elles vont avoir une seconde vie. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous.
Et n'hésitez pas, vous y trouverez certainement votre bonheur pour une somme modique et donc aussi pour la bonne cause.
Merci beaucoup Étienne Baudu à Salon de Provence, donc pour RTL.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Qui a gagné aux États-Unis? Est-ce que Trump a réussi ou non son comeback? Voilà une question qu'on va poser à Bénédicte Tassard dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi.
Connu les premières notes de l'hymne américain, les États-Unis, où tombent depuis le milieu de la nuit maintenant les résultats électoraux des midterms, ces élections de mi-mandat qui permettent notamment d'élire une grande partie des parlementaires. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis et bonjour Bénédicte Tassard,
bonjour.
Chef du service étranger ici à RTL. D'abord, d'un mot Lionel, dites-nous qui a gagné?
Alors, question compliquée d'un mot. Les employés électoraux sont allés se coucher, mais pour l'instant, il y a quand même un léger avantage pour les Républicains, puisqu'ils sont bien partis pour gagner la Chambre des représentants. Mais les démocrates résistent beaucoup plus que prévu au Sénat.
Bénédicte. Oui, parce que les Républicains gagnent donc la Chambre des représentants, ils vont la gagner. On parlait d'un gain de siège de 10 à 30, on en est loin, ça sera plutôt 5. On dit même que les démocrates font mieux qu'en 2010 à la mi-mandat d'Obama ou de Clinton auparavant. Mais pour le Sénat, ça c'est sûr pour l'instant, enfin c'est pas sûr, mais les démocrates sont en train de sauver le Sénat.
C'est-à-dire que c'est 50-50, il y a 100 sénateurs?
Alors,
et on était à 50-50 aujourd'hui.
Pour
et là, on serait à combien?
Pour l'instant, il y a 166 démocrates élus. Il y a 188 républicains élus. Il reste 80 sièges à pourvoir. Il faut une majorité de 218.
Ça, c'est la Chambre.
La Chambre.
Mais le Sénat, oui. Le Sénat, c'est 50-50.
Ah ben oui.
Le Sénat,
il y a 48 démocrates. Ouais. Il y a 47 républicains pour l'instant.
Voilà.
Et il reste 5 sièges.
Eh oui.
Alors ça dépend aussi des projections. Il y a des bien projections sûr. Qui donnent à 48-48.
Voilà.
Donc il y a quatre États qu'il faut regarder voilà. maintenant attentivement. C'est le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin et la Géorgie. Il est possible qu'en fait on attende jusqu'au 6 décembre. Parce qu'en Géorgie, il faut que les candidats aient 50% des voix. Il y a un troisième candidat, un libertarien. Donc, il est possible qu'aucun des deux, républicains ou démocrates, n'arrive à 50% des voix. Donc, il y a un deuxième tour. Et le deuxième tour, ce sera le 6 décembre.
Bon, c'est vrai qu'en France, Trump, globalement, est mal perçu par les médias français. Et je commence à lire que Trump a perdu, il a raté son comeback. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? Je pose la question à Bénédicte comme à Lionel.
Alors non, pour l'instant, il n'a pas raté son comeback. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il n'a pas gagné comme il l'a dit. Il est venu pendant la soirée électorale pour dire que c'était une grande victoire pour les Républicains et surtout pour lui, parce qu'il a parlé beaucoup de lui. Ça, c'est faux, puisque pour l'instant, on ne sait pas si les Républicains vont avoir le contrôle du Congrès. D'ailleurs, ça ne lui avait pas porté chance en 2000, parce qu'il avait fait la même chose. Il était venu au cours de la soirée en disant « J'ai gagné, arrêtons de compter les votes, puisque c'est moi qui ai gagné. » Bon, bah, finalement, il a perdu. En revanche, pour l'instant, c'est plutôt un léger avantage à Donald Trump, si on reste sur la photo qui est figée à cette heure-ci. Donc, il faut voir, mais c'est beaucoup plus serré que ce que les Républicains attendaient, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il n'y a pas de vote sanction massif contre Biden. La revanche de Biden, c'est quand même la victoire en Pennsylvanie du démocrate Fetterman. Ça offre à Biden la chance de conserver la majorité au Sénat.
Et alors, qu'est-ce que ça peut changer pour les mois à venir, justement, s'il arrive à conserver le Sénat ? Lionel.
Alors, ça sera beaucoup plus facile pour lui de négocier, hein, parce que s'il perd les deux chambres, ben, en fait, tout ce qui est législature, ben, ce sera open, on va dire, pour l'opposition. Là, ce que ça peut changer, un mot sur la Chambre des représentants, qui alors assiégera le 3 janvier, ça voudra dire sans doute que la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole, et qui vise notamment Donald Trump, eh bien, elle va disparaître, parce que les Républicains vont l'annuler. Donc ça, c'est important pour Donald Trump. Pour le Sénat, effectivement, eh bien, il pourra dire voilà, vous me laissez passer ma loi sur l'avortement, pour protéger l'avortement. Moi, je vous fais une fleur sur le budget. Donc, c'est très important qu'il garde ce Sénat.
Et puis, ça peut changer aussi l'avenir du Parti républicain. Parce que vous voyez que les plus trumpiristes sont fragilisés. Carrie Lake en Arizona, si sa défaite se confirme au poste de gouverneur. Donc les Républicains peuvent s'interroger sur leur ligne politique et devenir moins radicaux.
Et puis il y a une image que chacun aura vue, c'est Ron DeSantis qui a gagné en Californie, qui est arrivé avec femme et enfant. C'est l'image de l'Amérique.
En Floride.
En Floride, il a 44 ans, il est jeune, il est beau. Et on l'a vu avec, dans une image d'épinal, si j'ose dire, avec femme et enfant. Donc ça sera un candidat sérieux contre Donald Trump. Dans une seconde, on va parler cyberharcèlement avec un invité exceptionnel. Jerem Starr sera en studio avec nous. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, un invité exceptionnel.
À la veille de la journée contre le harcèlement, et alors que d'après l'association e-enfance, 60% des 18-25 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement, nous recevons Jerem Starr. Bonjour.
Bonjour.
Jerem Starr, c'est votre nom de scène. Au civil, vous êtes Jérémy Gisclon, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes une star des réseaux sociaux, plus de 2 millions d'abonnés, par exemple, sur Instagram. Intervieweur, humoriste, blogueur spécialiste de la télé-réalité, ça va, c'est correct ?
À l'époque, maintenant plus trop de télé-réalité, mais en tout cas oui, dans mon parcours oui.
Et vous publiez donc ce livre « Survivant des réseaux sociaux », c'est chez Hugo Doc, récit de votre combat contre le cyberharcèlement. D'abord, en quoi il consiste, en ce qui vous concerne, ce cyberharcèlement ? De quoi vous avez été, vous, victime ?
Alors moi, j'ai été, du jour au lendemain, jeté en pâture sur les réseaux sociaux et accusé d'horreur avec des manipulations de personnes qu'on a forcé à déposer plainte contre moi pour des faits gravissimes, hein, m'accusant de complicité, de viol, de choses terribles, hein, de personnes que je ne connaissais pas, en plus que j'avais jamais vu de ma vie. Ça a été, voilà, du jour au lendemain, quelqu'un qui s'est mis à raconter n'importe quoi, en fait, hein, sur les réseaux. Tout ça a largement été relayé et force est de constater que 5 ans après, j'ai toujours ces termes terribles qui me collent à la peau et je suis régulièrement lynché sur les réseaux. Et ce sont, bien au-delà du cyberharcèlement, des répercussions dans la vraie vie, puisque, comme je le raconte dans mon livre, j'ai été pris en otage, on peut le dire, par un déséquilibré qui croyait à toutes ces calomnies. Je suis régulièrement insulté et agressé dans la vraie vie, en dehors des réseaux sociaux. Et les attaques sont particulièrement violentes sur Internet.
Voilà. Et la première personne dont vous parliez, elle a parlé de vous de manière anonyme ?
En fait, c'est tellement compliqué parce qu'on a eu tellement de gens qui ont voulu. Vous savez, on est dans une ère du balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu pour exister. Donc, en fait, c'est parti de quelqu'un sur Internet qui cherchait à faire le buzz.
Mais qui était anonyme ou pas, cette personne?
C'était derrière un pseudo, en tout cas.
Aux yeux du grand public, évidemment, d'accord. Oui. Après, si vous voulez, dans le microcosme de la télé-réalité, c'était quelqu'un qui cherchait à se faire connaître.
Vous-même, Jérémy Star, vous avez fait carrière avec les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que vous expliquez que vous ne pouvez pas tout simplement tout fermer, tout quitter, parce que c'est en partie ce qui vous fait vivre. Justement, est-ce que vous êtes par exemple un repenti? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que parfois, dans votre vie d'avant, vous êtes vous-même allé trop loin sur ces sujets-là?
Alors oui, c'est ce qui est, je pense, hyper intéressant dans ma lutte contre le cyberharcèlement, c'est qu'effectivement, moi j'ai été des deux côtés. Pendant longtemps, j'ai alimenté tout un système un petit peu de délation autour du milieu de la télé-réalité, en donnant la parole à des candidats qui se clashaient entre eux, en étant moi-même journaliste people, donc en sortant beaucoup de choses sur la vie privée des candidats. Donc j'ai participé à toute cette machine et peut-être contribué à certaines vagues de haine sur les réseaux sociaux, puisque j'étais très virulent, j'étais un lanceur d'alerte, donc j'y allais pas franchement avec le dos de la cuillère. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout ce système, effectivement, à un moment donné, a fini par m'exploser à la tête et que je pense aujourd'hui être plus crédible que n'importe qui pour avoir été des deux côtés.
Et vous êtes plus prudent, vous pesez peut-être davantage vos mots. D'ailleurs, c'est assez rare de reconnaître les erreurs telles que vous venez de le faire à l'instant.
Oui, mais c'est nécessaire pour mon évolution. Ça me fait du bien de me rendre compte de ce que j'ai été par le passé et de mieux comprendre aussi la douleur du cyberharcèlement. Et c'est vrai que quand on a, encore une fois, voilà, été des deux côtés, on ne peut plus que n'importe qui le comprendre.
Alors, c'est un cyberharcèlement quand même particulier, oui. Parce que c'est un cyberharcèlement de personnalité. C'est parce que vous êtes connu que vous êtes harcelé. Alors qu'il y a également un cyberharcèlement qui existe dans la vie de tous les jours, de gens qui ne sont pas connus. Donc c'est une spécificité que ce cyberharcèlement.
Oui, alors attention, j'entends souvent aussi, il ne faut pas s'exposer, ou c'est la loi à payer entre guillemets quand on est connu. Que je sois connu ou non, je reste un être humain, et c'est vrai que rien ne justifie, enfin c'est pas parce que j'ai choisi de m'exposer que ça justifie cela. Mais évidemment, moi je suis là aujourd'hui pour également aider tous les jeunes qui me suivent. J'ai d'ailleurs une plateforme de lutte contre le harcèlement où je donne la parole à toutes les personnes connues ou pas connues.
Harcèlement.online, c'est ça.
Harcèlement.online, parce que mon expérience sert. Et moi, effectivement, donc, je suis connu et j'ai, Dieu merci, les moyens de me défendre. Mais
gamine... on ne peut rien faire quand on est harcelé. Vous allez chez les policiers, c'est très rare qu'il y ait
intervention. Ils comprennent rien parce que personne n'est suffisamment formé. Ils ont l'impression que c'est des brimades ou des petites choses sur Internet, mais voilà, ça peut partir très loin. Et moi, je constate qu'en plus de ça, c'est ce que je disais, la petite gamine par exemple qui est harcelée sur Internet ou au collège et qui vit à Lille et qui n'a pas les moyens de se défendre, elle finit par se suicider. Moi, j'ai dépensé plus de 200 000 euros dans mes procédures pour obtenir justice. Oui, bah oui, bien sûr.
200 000 euros.
Oui, parce que j'ai 6 procédures en cours avec des appels, des machins, des bidules. Ça prend un temps pas possible. C'est un temps judiciaire extrêmement long. Ça fait 5 ans. Il y a encore des procédures en cours où mes cyberagresseurs qui racontent encore des conneries aujourd'hui à mon sujet sont en liberté.
Mais vous l'avez fait condamner ?
J'ai fait condamner plusieurs personnes. Alors, j'ai obtenu 2 condamnations à ce jour sur mes diverses procédures. J'en ai une dizaine. J'ai obtenu 2 condamnations. Une première, donc mon cyberagresseur qui a raconté n'importe quoi sur les réseaux sociaux il y a 5 ans a été condamné sur le volet diffamation. Donc, la diffamation finalement est aussi une arme du
bien
harcèlement.
Sûr.
Donc, il a été condamné à une très très lourde amende. Et j'ai fait condamner un journaliste indépendant à de la prison ferme en première instance, ce qui était une décision très... exemplaire.
Mais en appel,
la peine de prison a sauté, donc nous allons à présent en cassation. Mais vous voyez tout ça, l'appel, la cassation, tout ça, ça coûte très cher et je me retrouve à payer alors que moi j'ai rien demandé, j'ai juste attaqué quelqu'un qui a été condamné en première instance mais qui ne lâche rien.
Et c'est aussi ces combats judiciaires que vous racontez dans ce livre « Survivant des réseaux sociaux », cette incompréhension à laquelle vous êtes confronté de la part d'enquêteurs, de juges également.
C'est scandaleux. Le système judiciaire, on le sait de toute façon, est très lent. On me parle d'un parquet numérique en charge de ces affaires-là. Pourquoi le parquet numérique n'a jamais été saisi des affaires aussi importantes que les miennes qui durent depuis 5 ans ? J'en viens à me dire qu'en fait, oui, il faut se suicider pour que ça avance. Et je l'ai vu, puisque une influenceuse de qui j'étais très très proche, s'est suicidée. Elle s'appelait Mavachou, elle était mère de famille. Et étrangement, tout s'est accéléré quand elle est morte. Donc faut-il que je me tue pour que tout le monde se remue ?
On entend en tout cas votre appel. Merci beaucoup, Jérôme Star, d'être venu
merci à vous.
Témoigner à ce micro. Je rappelle le titre de votre livre, Survivant des réseaux sociaux. Et puis on redonne évidemment le numéro, le 3018, numéro à composer si vous êtes victime, témoin de cyberharcèlement, surtout. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jérôme Star.
C'était RTL Midi, votre vie d'info revient dans quelques secondes avec la grande édition de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez et merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
L'État propose un accord financier à la famille d'Ivan Colonna après la mort de l'indépendantiste corse tué par un co-détenu en prison au printemps dernier. Emmanuel Macron lui présente la stratégie militaire française dans la rade de Toulon. Le chef de l'État attendu à bord d'un sous-marin cet après-midi. Mais derrière l'image, quel est l'état de l'armée française? A-t-elle suffisamment de moyens? Nous serons juste après le journal avec le général Dominique Trinquant. Aux États-Unis, pas de raz-de-marée républicain aux élections de mi-mandat. Et puis, avec ou sans Giroud, Didier Deschamps dévoilera ce soir la liste des Bleus retenus pour aller disputer le mondial de football au Qatar. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi. Alors en salle avec Stéphane Boutsock qui nous parlera notamment du dernier Marvel. La question du jour sur notre site rtl.fr. Grève demain à la RATP pour les salaires et les retraites. Comprenez-vous le mouvement ?
Et bien sûr, tous ces sujets, nous pourrons les évoquer à partir de 13h avec les auditeurs. On reviendra notamment sur le témoignage bouleversant de Nadia hier et nous essaierons de comprendre comment on peut aider Nadia.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice humide au sud.
Pardon. Exactement, pardon, c'est moi. Un temps bien pluvieux du sud-ouest au nord-est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
L'État reconnaît avoir une part de responsabilité dans la mort d'Ivan Colonna, l'indépendantiste corse condamné pour la mort du préfet Erignac et tué par un co-détenu dans sa prison d'Arles. C'était en mars dernier. 245 000 euros ont donc été proposés à la famille, à l'ENAF. Pour éteindre en fait une procédure devant la justice administrative.
Oui, la famille d'Ivan Colonna avait saisi le tribunal administratif en avril pour être indemnisée parce que l'administration pénitentiaire n'avait pas protégé le détenu. Écoutez l'avocat de la famille, Maître Patrice Spinozzi.
C'est un mode assez classique en réalité de règlement des conflits. Il est rare, parce qu'il est rare que l'administration reconnaisse assez naturellement sa responsabilité, c'est le cas ici. L'intérêt potentiellement il est double, c'est d'abord on gagne du temps, et puis il y a une sécurité en réalité dans la proposition qui est faite aujourd'hui par l'administration en termes de montant. La proposition est assez supérieure aux montants qui sont les montants classiquement retenus par les juridictions administratives.
Chacun des membres de la famille d'Ivan Colonna peut accepter ou refuser ce chèque, les parents, ses enfants, sa femme, son frère et sa sœur. Si tout le monde dit oui, la procédure administrative s'arrête, mais une enquête pénale est toujours en cours et les proches du nationaliste corse peuvent encore attaquer l'État au pénal, par exemple pour non-assistance à personne en danger.
Anne Le Hénaf pour RTL.
La Corse qui se dit prête à accueillir l'océan Viking dans l'un de ses ports.
C'est ce qu'a fait savoir effectivement le président du conseil exécutif de Lille, Gilles Simoni. C'est aussi le cas du maire de Marseille. Mais à Paris, le gouvernement, lui, temporise. Et alors que le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée est toujours bloqué en mer avec 234 migrants à bord, l'exécutif français renvoie l'Italie face à ses responsabilités, Valentin Boisset.
Oui, c'est un jeu de dupes depuis hier soir. L'Italie a d'abord remercié la France pour l'accueil du navire, démenti immédiat des autorités françaises. Elles n'ont jamais accepté le bateau. Ce matin, Olivier Véran lui-même appelle l'Italie à respecter ses engagements en la matière. Les canaux diplomatiques seraient donc encore ouverts. Alors que se passe-t-il précisément sur ce bateau? Eh bien ce matin, SOS Méditerranée n'a reçu aucune instruction, aucune information. Le bateau se trouve dans les eaux internationales entre la Sicile et la Sardaigne et il se dirige désormais vers les côtes corses dans l'espoir que la situation se débloque côté français, comme l'explique Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée.
Notre navire fait déjà route vers la France parce que nous ne pouvons pas attendre. En fait, les négociations avec l'Italie n'ont rien donné. Nous n'avons aucune réponse à toutes les demandes de porture qui ont été faites. Nous nous tournons vers la France pour solliciter donc l'ouverture de ce port en France à titre exceptionnel.
Et selon l'organisation à bord, la situation est mauvaise. Exaspérés, certains passagers se seraient jetés à l'eau après ces deux semaines de blocage en mer.
Valentin Boisset pour RTL.
Aux États-Unis à présent, les Américains se réveillent ce matin en découvrant les résultats des midterms.
Ces élections de mi-mandat qui rythment la vie politique américaine en renouvelant une grande partie des parlementaires. Et d'une certaine manière, ce matin, c'est le soulagement qui prime chez les démocrates de Joe Biden. Ils ont certes perdu, a priori, Lionel Gendron, mais sont un peu moins sonnés que ce qu'ils redoutaient.
Oui, parce qu'ils peuvent encore conserver le Sénat et si c'était le cas, Joe Biden ne serait pas forcément un président aux mains liées pendant 2 ans. Les résultats ont été figés là pendant 2-3 heures car les employés électoraux dormaient, mais on est à 48-48 au Sénat. Donc ce qui permet d'espérer pour eux, c'est cette victoire en Pennsylvanie qui était un état clé. Mais c'est une soirée où on s'est rendu coup pour coup d'un point de vue électoral et les républicains ont gagné plus facilement que prévu dans l'Ohio. Ça reste une élection incroyable. Il faut maintenant regarder l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin et la Géorgie. Attention parce qu'il risque d'y avoir des contestations, on risque de compter, recompter. Les démocrates sont moins sonnés que prévu, mais ils peuvent encore aussi perdre les deux chambres.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Les États-Unis, où Meta, la maison mère de Facebook, annonce la suppression de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs. Emmanuel Macron, lui, est dans la rade de Toulon aujourd'hui pour parler de la stratégie militaire française. Le président qui va se faire élitreiller à bord d'un sous-marin, voilà pour la carte postale. Mais derrière l'image, cette question, l'armée française est-elle suffisamment puissante? On en parle après le journal avec le général Dominique Trinquant.
RTL Midi.
Nous n'avons pas cherché à ne pas dire. Sur RTL ce matin, le président de la Conférence des évêques de France se défend d'avoir voulu étouffer l'affaire Ricard.
Du nom de ce cardinal qui a reconnu avoir eu un comportement répréhensible avec une adolescente il y a 35 ans. Un scandale de plus pour l'Église catholique. Et alors que certains déplorent une prise de conscience tardive des responsables religieux sur le sujet, Éric de Moulin-Beaufort a tenté de se justifier ce matin sur RTL.
Jusqu'en 2016... personne ne prend vraiment au sérieux les personnes victimes, parce que tout le monde pense que quand c'est des enfants, ils vont oublier. Quand je dis tout le monde, la justice, la police, tout le monde est dans cet état d'esprit-là. Depuis 2016, on sait que le trouble des personnes victimes est considérable et dur. Nous devons progresser, c'est bien certain, et c'est pourquoi nous avons décidé à cette Assemblée que désormais, quand une affaire de ce genre serait connue, ce qui, j'espère, n'arrivera plus, nous allons constituer un comité de suivi, un conseil de suivi, avec une personne laïque, extérieure à l'Église, avec qui nous engageons à travailler tout au long de la procédure.
Depuis 2016, on sait que le trouble des victimes est considérable et dur. Depuis 2016, il y a 6 ans seulement, donc d'après Éric de Moulin-Beaufort, des propos qui font bondir François Deveau, président de l'association La Parole Libérée.
Les troubles des victimes, Françoise Dolto, ça date des années 70. Lutter contre la pédophilie, ce livre-là, il date de 2001. L'affaire Piquant, le premier évêque qui a été condamné en France, ça date de l'année 2000. Ces gens-là, qui ont passé des décennies entières à travailler sur la théologie, comprennent seulement en 2016 que violer un enfant, ça engendre des traumatismes dramatiques. Il faut procéder à la dissolution de cette institution.
François Deveau avec Simon Marseille pour RTL.
RTL Midi.
Qu'est-ce qu'une tenue correcte dans l'hémicycle? Le bureau de l'Assemblée a tranché ce matin.
Oui, après les polémiques stylistiques qui ont rythmé le début de la mandature, certains accusant notamment les Insoumis d'être trop débraillés, il a fallu remettre au clair le règlement Thomas Desprez. À l'arrivée, c'est comme au lycée, les shorts, c'est interdit.
Voilà, c'est ça, shorts et bermudas interdits. Pour les hommes, ce sera veste obligatoire. En revanche, le port de la cravate, lui, ne sera pas imposé. C'est une simple recommandation. Voilà pour ce qui a été voté par le bureau ce matin. Le règlement de l'Assemblée va en conséquence être modifié. La tenue de ville qui était jusqu'à présent recommandée va être remplacée par une description plus précise pour que l'habit du député soit en adéquation, je cite, avec la solennité des lieux, c'est-à-dire rester convenable, non détendu, qu'elle ne soit pas négligée. Alors ça peut paraître une évidence, mais ça n'a pas fait consensus ce matin. Les groupes de gauche notamment se sont opposés à une obligation du port de la veste pour les hommes. Éric Ciotti, lui, y tenait. donner. Il a gagné ce matin son bras de fer. En revanche, le bureau de l'Assemblée n'a pas modifié les règles concernant la tenue des femmes.
Thomas Després à l'Assemblée nationale pour RTL. Jeudi noir demain dans les transports franciliens. 7 lignes de métro fermées à Paris. Les 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Perturbations attendues sur les autres lignes, dans les bus, les RER A et B. Trafic quasi normal en revanche à la SNCF. La CGT appelle à la grève, on le rappelle, pour les salaires et les retraites.
Fin du suspense. Dans un peu plus de 7 heures maintenant, et notre ami Georges Rau est déjà là, il s'en étouffe, non pas de bonheur, mais de suspense. Didier Deschamps annoncera ce soir la liste des joueurs qui disputeront le mondial au Qatar.
Une annonce dans le 20h, effectivement, sur TF1. Alors d'ici là, rien ne devrait fuiter. Même les joueurs l'apprendront en direct devant leur écran. Nicolas Georges Rau, certains sont quand même moins inquiets que d'autres.
Oui, alors effectivement, si vous me demandez, par exemple, si Mbappé ou Loris seront dans la liste, on peut déjà répondre par l'affirmative. Il y a une quinzaine de joueurs dans ce cas, une dizaine de champions du monde notamment, comme Pavard, Griezmann, Dembélé, Giroud et d'autres qui sont devenus aussi des éléments importants. Oui,
Giroud, vous le mettez sûr dans la liste.
Giroud,
il
n'y
a pas de suspense.
Dans la liste ce soir de Didier Deschamps, qui sera peut-être très probablement une liste élargie. Et je vous parlais des éléments aussi importants de ces derniers mois, c'est des joueurs comme Tchouaméni qui seront certains dans la liste de ce soir. Mais le problème, l'incertitude, eh bien, ça vient des blessés, des convalescents. Quel état de forme? Est-ce qu'ils seront aptes au premier match des Bleus le 22 novembre? Parce que c'est la condition fixée par le sélectionneur. Et là, on parle de joueurs comme Kimpembe, comme Varane, comme Maignan, comme Digne, comme Benzema, qui sont tous touchés à des degrés divers. Et donc, ce soir, 24, 25, voire 26 noms, c'est-à-dire le maximum, peut-être donné par le sélectionneur. Elle est confirmée ou non lundi prochain, qui est la date butoir pour rendre la liste à la FIFA, donc après avoir vu les blessés à Clairefontaine.
Il peut y avoir des surprises, Nicolas ?
Alors, si on parle façon Pascal Chimbonda avec Raymond Domenech en 2016, c'est toujours l'exemple que l'on prend. L'arrière droit de Wigan, qui était une surprise absolue, est sorti du chapeau. Non, parce que c'est pas le mode de fonctionnement de Deschamps, qui a de très rares exceptions, comme Koundé en 2021 ou Umtiti en 2016, a toujours choisi pour les grandes compétitions des joueurs qu'il avait auparavant déjà convoqués.
Merci Nicolas Georgerot, on suivra ça donc ce soir. La compétition, elle démarre dans 11 jours. Le premier match des Bleus, ce sera le 22 face à l'Australie. Du hand aussi ce soir, l'équipe de France féminine vise la première place de son groupe à l'Euro. Ce sera face aux Pays-Bas à 20h30. Et puis avant ça, à 14h15, les skippers de la Route du Rhum s'élanceront de Saint-Malo direction la Guadeloupe. On vous fera vivre le départ sur RTL. La météo. On vous retrouve, Peggy Broche, avec un pays coupé en deux.
Exactement, un temps bien pluvieux, Céline, du sud-ouest aux frontières de l'est, avec des pluies très soutenues sur le Gard et l'Ardèche depuis ce matin et des pluies orageuses également. Et sur un large quart nord-ouest, on retrouve ce qu'on appelle un ciel de traîne avec très peu de pluie, uniquement sur les bords de Manche et de belles éclaircies. Le tout sous des températures encore douces pour la saison, de 13 à 17 au nord et de 16 à 23 au sud.
Merci Peggy.
Où en est l'armée française? Paraît-il que s'il y avait une guerre chaude, on n'aurait même pas 3 jours de munitions devant nous. C'est ce que j'ai entendu parfois. Ben on posera la question au général Trinquant dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Ça fait 20 ans qu'on parle d'accroître notre capacité en force de réserve. Ça fait 20 ans qu'on pense augmenter tout ça. On ne l'a pas fait. Essentiellement pour des histoires de moyens budgétaires, comme d'habitude, avec les astuces de garçon de bain, de gestion en gestion. C'était en fait une faute à l'aune du contexte que nous voyons aujourd'hui.
L'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, chez nos confrères d'Altis, alors qu'Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui ses décisions pour permettre aux armées, disons, de tenir leur rang dans une Europe qui se réarme. Pour en parler avec nous, le général Dominique Trinquant, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, comme Pierre de Villiers, vous êtes inquiet, vous, pour l'armée française?
Non, je ne suis pas inquiet. Le budget des armées a été augmenté d'1,7 milliard par an depuis 5 ans, depuis le départ du général de Villiers. Il est augmenté l'année 2023 de 3 milliards par an. Et ce que le président de la République va évoquer tout à l'heure, c'est pas des chiffres forcément, mais c'est une revue stratégique qui tient compte de la guerre en Ukraine, avec une augmentation de budget dont on dit que la fourchette pourrait être autour de 410 milliards pour la nouvelle loi de programmation militaire.
Alors, on entend parfois des rumeurs, et j'en citais une il y a un instant, en cas de guerre chaude, j'entends parfois que nous n'avons pas 3 jours de munitions devant nous. Bon, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les munitions en cas de guerre chaude, d'ailleurs, pour tout vous dire. Mais je vous pose cette question.
Alors, il faut se souvenir que les armées françaises, pendant 15 ans, ont vécu ce qu'on appelle les dividendes de la paix, c'est-à-dire des baisses de finances. Hein. Et donc, il a fallu faire des choix, et probablement que les stocks de munitions sont passés dans les choix à faire en diminuant les stocks de munitions. 3 milliards ont été mis sur la table récemment pour augmenter les stocks de munitions. Donc, tout ceci a été pris en compte. Maintenant, pour la guerre chaude dont vous parlez, le combat de haute intensité, c'est la révélation de ce qui se passe en Ukraine. Souvenons-nous qu'avant, nous étions engagés essentiellement dans le Sahel, dans une guerre asymétrique, puisque globalement, les djihadistes n'avaient pas d'avions, par exemple. Hein. Et là, on est dans une guerre de haute intensité. Et l'armée française se prépare pour cette guerre de haute intensité.
Pardon, mais depuis le début de votre intervention, vous citez des milliards. Pour les gens qui n'ont pas votre connaissance de l'armée, à quoi ça correspond, par exemple, des milliards en munitions? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça paye des munitions. Ça paye des munitions qu'on met en stock, parce que quand la guerre se déclenche au coup de sifflet, c'est pas à ce moment-là qu'il faut lancer les chaînes de production.
Mais vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'on a trois jours d'avance ou
Non, aujourd'hui, on en a bien plus que ça.
Mais on a combien?
Écoutez, c'est un chiffre que je n'ai pas. D'abord parce que... Non, je ne l'ai pas. D'abord
mais
parce que...
Qui l'a, ce chiffre?
Dans l'OTAN, alors si on prend la guerre de haute intensité, premier point, on n'a jamais rêvé faire la guerre tout seul. On fait toujours la guerre dans une coalition, et cette coalition, pour nous, c'est une alliance, et c'est l'OTAN. Donc face à l'Est, aujourd'hui, c'est l'OTAN. Et la France a un créneau à tenir là-dedans, avec des stocks de munitions, avec un volume de force, avec une capacité à remplir. Et les stocks de munitions, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous les donner, d'abord parce que je ne les connais pas, et tout simplement parce qu'on n'a pas à révéler le niveau que nous avons vis-à-vis...
Non mais derrière ces questions, il y a le traumatisme du Covid, on porte son masque. Au fond, on est aussi fort avec nos munitions qu'on l'a été avec nos masques. Voilà ce qu'on se dit en entendant aujourd'hui parler de ces sujets-là. Donc on s'interroge et on se dit également que jamais il y aura une guerre. C'est aussi ce qu'on pense.
On se le disait jusqu'au 24 février. Et le 24 février, d'un seul coup, on a découvert que la guerre revenait en Europe. Je répète, il y avait la guerre. On avait quand même 4000 soldats qui étaient déployés dans le Sahel. Ne leur dites pas qu'ils ne faisaient pas la guerre. Ils faisaient la guerre tous les jours. Simplement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus direct vis-à-vis
c'est
de l'Europe et donc vis-à-vis de la France.
Qu'est-ce qu'on peut attendre des annonces d'Emmanuel Macron? Vous attendez quelque chose de fort, vous, aujourd'hui?
Alors, j'attends qu'il marque bien les orientations, en particulier dans le domaine du renseignement, dans le domaine des drones, de la guerre cyber. Mais un sujet dont on parle peu, parce qu'on dit la guerre, c'est le problème des armées. Mais la guerre, c'est pas le problème des armées. La guerre, c'est le problème de la nation. Et en particulier, de la capacité de résilience de la nation. Et la résilience de la nation est un sujet important qu'il faudra aborder.
Mais comment? Ça passe par quoi?
Eh bien, par exemple, comment servir mon pays? Tout le monde ne va pas prendre un fusil d'assaut et être soldat. On a besoin... Alors, et on a un exemple très criant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. On a besoin de pompiers, on a besoin de secouristes, on a besoin de gens qui travaillent dans des tas de domaines, logistiques, etc., qui ne sont pas forcément en première ligne avec un fusil d'assaut. Et ça... On a besoin de mobiliser notre jeunesse, qui est formidable, et de leur dire, écoutez, la jeunesse, qu'est-ce que vous aimez faire? Tiens, ça va servir votre pays. Et donc, on va pouvoir vous orienter. Alors, et il y a les réserves dont on a parlé. Les réserves ne sont pas des militaires d'actifs, ce sont des gens qui vont remplir d'autres. Il y a les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est la résilience de la nation.
Et c'est ce que vous appelez de vos voeux un retour un petit peu du patriotisme dans ce sens très précis.
Vous voyez, le patriotisme, je le porte au revers de ma veste. Hein. C'est le bleuet qui a été fait en 1920 et pour associer les populations au soutien des armées.
Et puis je l'ai dit tout à l'heure, mon général, on aura aujourd'hui une pensée pour le général de Gaulle, puisqu'il y a de cela 52 ans. Il disparaissait à Colombey-les-Deux-Églises, c'était un 9 novembre. Et je ne doute pas que vous ayez une pensée pour lui également.
Bien
12h51, une pause et nous parlons culture dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc nous parlons cinéma. C'est toujours un plaisir de recevoir Stéphane Boutsock.
Plaisir partagé, bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphane. Avant de parler des sorties de la semaine, vous vouliez revenir sur le festival de l'Alpe d'Huez. Mmh. Vous nous aviez révélé il y a quelques semaines le nom de la présidente de cette nouvelle édition, ce sera Karine Viard.
Oui.
Mais désormais, vous avez tout le casting, tout le jury.
Karine Viard sera entourée des comédiennes Camille Chameau et Bérangère Krief, du comédien québécois, on le connaît peu en France, mais c'est une vraie star de l'autre côté de l'Atlantique, Antoine Bernard, et puis de l'auteur et réalisateur Stéphane Foenkinos, qui est le frère de David. Donc rendez-vous pour ce très beau jury du Festival de l'Alpe d'Huez du 16 au 22 janvier prochain. Ce sera un événement RTL.
Et on en vient aux sorties de la semaine avec un coup de cœur pour le film Marvel. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la signification d'un film Marvel.
C'est un film de super-héros. Voilà. Tiré des personnages des comic books Marvel.
Black Panther.
Wakanda Forever, c'est la suite, c'est le numéro 2. Le premier film était sorti...
Vous l'avez perdu là.
J'ai l'impression de parler latin, enfin une langue morte en quelque sorte. Le premier film était sorti en 2008, 3 700 000 entrées en France, 14e plus gros succès de toute l'histoire du cinéma à l'échelle planétaire. Donc c'est un vrai événement cette suite, je peux vous dire, c'est très attendu par les exploitants et le public. Ça débarque donc aujourd'hui, c'est la suite du carton de 2018, en sachant que le héros principal, l'acteur Chadwick Boseman, est mort brutalement en 2020 d'un cancer foudroyant. Donc il a fallu le remplacer puisque le scénario était déjà en gestation. Et on est allé puiser justement dans les histoires Marvel, dans l'univers de Black Panther, puisque la sœur du héros existe. Et bien c'est une Black Panther qui est dans cette suite. J'essaie de pas trop en dire plus. Je me suis fait engueuler la semaine dernière par une dame qui s'appelle Gisèle, que j'embrasse, parce que j'en avais trop dit sur le film Close. Donc je vais me taire aujourd'hui sur Wakanda. Mais je vais vous faire écouter la musique parce qu'il y a aussi un événement dans l'événement. La musique de Black Panther 2, c'est aussi le retour de cette jeune femme. Rangez ce disque dans votre discographie entre Tino Rossi et André Rieu, puisqu'elle s'appelle Rihanna. Vous connaissiez Rihanna ?
Bah, Rihanna, oui.
Eh ben voilà, c'est pour vous.
Rihanna, quand même, attendez.
Ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas chanté.
Je suis l'actualité, Rihanna. Figurez-vous qu'elle est parfois au Parc des Princes, d'ailleurs, Rihanna.
Cadeau pour
elle
vous.
Elle vient régulièrement voir le Paris Saint-Germain.
Wakanda Forever, donc Black Panther 2, sort aujourd'hui.
Autre film à ne pas rater, Stéphane, c'est Couleur de l'incendie.
Ah ben là aussi, c'est une suite, enfin une vraie fausse suite. C'est l'œuvre de Pierre Lemaître, c'est la suite chronologique d'Au revoir là-haut, qui avait été adaptée par Albert Dupontel. Cette fois, c'est Clovis Cornillac qui s'y colle. On est fin des années 1920, on suit les mésaventures de la famille Péricourt. Et là aussi, c'est une héroïne, c'est Madeleine Péricourt, jouée par Léa Drucker, qui hérite de l'empire de son papa, qui va en être dépossédé par une affreuse machination jouée par deux jolis salauds qui sont Benoît Poulvorde et Olivier Gourmet. Là aussi, il y a un très très beau casting. Et il y a plein de thématiques modernes dans ce film. La fascination pour l'argent, la corruption, la fascination pour le pouvoir, la montée du populisme. On est encore une fois à fin des années 20. Donc j'ai demandé à Clovis Cornillac, réalisateur et acteur du film, si son film en fait ne sonnait pas extrêmement moderne.
Vous montez Andromaque aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que la tragédie grecque est aussi moderne que la modernité. On n'a pas bougé. Donc quand on fait des films historiques, ce qui est formidable, c'est que graphiquement, pour un cinéaste, c'est pour moi beaucoup plus agréable de filmer ses costumes, ses décors, ses vieilles voitures, ses bâtiments, que de filmer une C3, une place de parking et une pub au-dessus d'un feu rouge. Mais les thématiques de nos relations humaines et sociétales, c'est les mêmes. Donc, pour moi, quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans, c'est hier.
Couleur de l'incendie de et avec Clovis Cornillac.
Et j'y ai vu effectivement aussi un film un peu militant sur le plan du féminisme, parce que dans la bande-annonce, il y a cette phrase que j'avais relevée, quand une femme doit faire face à la corruption des hommes.
C'est exactement ça, parce que tous les salauds autour d'elle sont en effet des hommes.
Ah oui, c'est le cas souvent.
Merci.
C'est beau, en fait. J'adore vous venir vous écouter.
Bien sûr,
c'est
bien sûr.
C'est une leçon de sagesse quotidienne.
Toujours une bien leçon, sûr, ouais. Les femmes doivent se battre contre les hommes, bien évidemment. Merci Stéphane Boutsock. Et ça dure depuis la nuit des temps. Enfin, elles ont relevé la tête. Quand une femme doit faire face à la corruption des hommes, c'est le film de Clovis Cornillac. Il est 12h58. On va revenir sur le témoignage de Nadia hier dans l'émission qui vous a tant ému. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.